RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Bonne Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La jeunesse de l'ASEAN a célébré la commémoration de Vesak au temple de Borobudur. Le premier ministre indien arrive en Indonésie mardi soir. L'Indonésie cible à augmenter le nombre de touristes indiens. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a appelé à la paix et la tolérance à la conférence internationale sur la jeunesse bouddhiste de l'ASEAN. Le gouvernement encourage l'augmentation des exportations de fruits du dragon. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. Le directeur général de l'orientation communautaire bouddhiste, le ministère des Affaires religieuses, M. Kalyadi a déclaré que le thème de Vesak 2018 est « Dire, agir et réfléchir pour renforcer l'unité des nations ». À la voix de l'Indonésie, il a expliqué que la série de la célébration de Vesak a commencé depuis le 6 mai avec le travail de dévotion au cimetière des Zéros en Indonésie, le don de sang et le traitement gratuit au temple de Borobudur, Magelang, Java Central. Le point culminant de la célébration de Vesak aura lieu au temple de Borobudur le 29 mai au soir. On estime que des dizaines de milliers de personnes vont y assister et cette année, 360 jeunes de pays de l'ASEAN seront présents.
Karena ini bagian dari di mana Indonesia sebagai bangsa yang besar.
Parce que c'est la partie de l'Indonésie comme une grande nation. Une nation composée de diverses tribus, races et religions. Il veut voir comment le concept d'harmonie construit en Indonésie. C'est ce que les jeunes de l'ASEAN veulent voir, environ 360 personnes au total. Et bien sûr, ils se joindront à la procession du temple Mendut et Borobudur. Selon Kalyadi, la célébration de Vesak de cette année est très spéciale, parce que dans le mémoire, les musulmans pratiquent le jeûne et les bouddhistes célèbrent Vesak. Il espère que ce moment sera une bénédiction pour construire une vie communautaire solide dans le cadre de l'État unitaire de la République d'Indonésie. Il a conseillé à la communauté bouddhiste du monde de vivre en répandant universellement l'amour et en s'aimant les uns les autres. Le premier ministre indien Narendra Modi arrivera mardi soir en Indonésie dans le cadre de la visite d'État jusqu'au 31 mai. Cela est sa première visite officielle dans ce pays, comme une réponse à la visite d'État du président indonésien Joko Widodo en Inde en décembre 2016 et en janvier 2018. Le 30 mai, le Premier ministre Narendra Modi tiendra un dialogue bilatéral avec le président de la République d'Indonésie. Il assistera ensuite à l'ouverture des réunions des délégations des affaires des deux pays et participera à la communauté de rassemblement public et la diaspora indienne en Indonésie. Lors d'une conférence de presse sur l'arrivée du Premier ministre indien en Indonésie à Jakarta lundi, l'ambassadeur indien en Indonésie, Pradeep Kumar Rawat, a présenté plusieurs questions à discuter lors du dialogue bilatéral entre les deux pays. Selon lui, les deux dirigeants discuteront du renforcement des relations bilatérales, du renforcement de la coopération économique, des investissements, des infrastructures et la connectivité et du tourisme, ainsi que d'autres questions régionales préoccupantes pour les deux pays. Le Premier ministre indien Narendra Modi fera une visite d'État en Indonésie dans les 4 prochains jours. Lors de sa visite dans ce pays, par cette visite, le gouvernement indien cible à augmenter 40% du nombre de touristes indiens en Indonésie, où atteindra 700 000 touristes. En outre, le côté indien a demandé à la compagnie aérienne Garuda Indonesia de commencer immédiatement des vols directs reliant Denpasar et Mumbai. Il a été annoncé par l'ambassadeur indien Pradeep Kumar Rawat lors d'une conférence de presse sur la visite du Premier ministre de l'Inde à l'hôtel Ritz-Carlton, Jakarta. Le Premier ministre Narendra Modi a également ajouté que jusqu'à présent, une bonne coopération entre l'Indonésie et l'Inde avait été établie dans le secteur de l'énergie et de l'énergie solaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles les relations entre les deux pays sont si harmonieuses. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a appelé à la paix et la tolérance à la conférence internationale sur la jeunesse bouddhiste de l'ASEAN à Yogyakarta du 27 au 30 mai 2018 à la commémoration de Vesak. Il a été déclaré par le vice pour l'autonomisation des jeunes du ministère de la Jeunesse et des Sports, M. Faisal Abdullah, dans sa déclaration officielle le dimanche. Yogyakarta est choisi comme lieu de la conférence parce que cette ville est connue pour avoir un potentiel culturel diversifié, une diversité religieuse, tolérante et pleine d'hospitalité. Le recteur de l'Université Gadjah Mada, M. Panut Mulyono, et des représentants du gouverneur de Yogyakarta, a également donné un discours d'ouverture de la conférence internationale. Dans l'effort pour maintenir la paix et la tolérance, il n'est pas seulement fait par le ministère de la Jeunesse et des Sports via l'ordre du jour formel de la conférence, tels que des discussions, séminaires, le focus de groupes de discussion et une conférence publique. Les participants seront également impliqués dans le culte du jour de Vesak organisé par Walubi dans le temple de Borobudur. Le ministère indonésien de l'Agriculture augmentera la production de fruits de dragon à exporter. Les fruits de dragon de différentes espèces de cactus hémipipites et plus particulièrement de celles de l'espèce Iloceros undatus peuvent pousser en Indonésie, comme écrit par Kompas.com, le propriétaire de l'Agro Sabila Farm en régence de Sleman, la région spéciale de Yogyakarta, M. Muhammad Gunung Sutopo a réussi à cultiver des fruits de dragon avec un chiffre d'affaires de millions de rupiah chaque mois. Muhammad Gunung Sutopo à Sleman, Yogyakarta a déclaré depuis 13 ans que le fruit du dragon a été cultivé et les résultats ont été exportés vers l'Europe et l'Amérique latine. Il a mentionné que les concurrents de l'Indonésie venaient l'Israël, Vietnam et la Thaïlande. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « L'interdiction pour les anciens condamnés du cas de corruption d'être le candidat au législatif devrait être réglementée conformément à la Constitution ». La Commission électorale générale ou KPU prévoit l'interdiction d'anciens condamnés de corruption dans les candidats aux législatives. Le plan a été discuté lors d'une audience avec Commission 2 de la Chambre des représentants du peuple ou le Parlement le 22 mai 2018. KPU non seulement interdirait l'ancien reconnu coupable de corruption, mais aussi ex-détenu les trafiquants de drogue, les crimes sexuels contre les enfants à devenir candidat aux législatives. Mais le plan de l'interdiction n'est pas approuvé par la Commission 2 de la Chambre des représentants du peuple au Parlement et le Conseil de surveillance des élections et le ministère indonésien de l'Intérieur qui accepte que le KPU soit guidé par la loi électorale numéro 7 l'année 2017. Dans l'un des chapitres de la loi électorale, a déclaré un candidat législatif avec le statut de ex-prisonnier et ont purgé une peine pour 5 ans ou plus, peuvent soumettre leur propre candidature à condition qu'il annonce qu'il était prisonnier du public. Bien qu'il n'ait pas obtenu l'approbation du Parlement, le gouvernement et le Conseil de surveillance des élections, il semble que KPU s'en tiendra à ses plans. Le commissaire du KPU, M. Wahyu Setiawan, a déclaré que KPU a tendance à rendre l'ancien détenu du cas de corruption et incapable de s'inscrire en tant que candidat législatif. KPU veut créer une nouvelle percée pour créer une institution de l'État qui est propre de la corruption. Mais malheureusement, l'interdiction de la nomination de l'ancien reconnu coupable de corruption ne peut pas être faite dans le règlement de la Commission électorale ou PKPU, mais doit être faite au niveau de la loi. La limitation des droits politiques des anciens du cas de corruption, si elle n'est pas prévue par la loi, violerait la Constitution 1945. L'article 28.g de la Constitution 1945 stipuler que la restriction sur les droits ne peuvent se faire que de deux manières à travers la loi et décision de justice. Tant qu'il n'y a aucune loi ou décision de justice qui réglemente les droits d'une personne ne peut être éliminé. De nombreuses parties sont d'accord avec le plan de KPU visant à limiter l'ancien prisonnier corrompu aux candidats législatifs. Mais il ne peut pas via le règlement de la KPU, dont le niveau est sous la loi. Il est donc préférable que KPU encourage l'interdiction de la nomination de l'ancien condamné de corruption conformément à la Constitution 1945. Et chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous. On se retrouve dans l'émission de l'histoire d'aujourd'hui, le 29 mai. Le 29 mai 1953, Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay sont les premiers hommes à atteindre le sommet de l'Everest. Edmund Percival Hillary étant alpiniste et explorateur néo-zélandais, né le 20 juillet 1919 à Auckland et mort le 11 janvier 2008 dans la même ville. Edmund Hillary et Tenzing Norgay sont les premiers hommes à avoir gravi l'Everest le 29 mai 1953 lors d'une expédition britannique dirigée par le général de brigade John Hunt. Ils sont arrivés au sommet de la montagne 8 850 mètres le 29 mai 1953. Edmund Hillary a été aidé par 150 grimpeurs professionnels et 750 partisans en guide du Sherpa qui s'appelle Tenzing Norgay. Après le succès, Edmund Hillary se concentre principalement à améliorer les conditions de vie de la population du Népal, en particulier les Sherpa. Le 29 mai, la journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Cette journée a un double objectif, honorer la mémoire des casques bleus de l'Organisation Nations Unies qui ont perdu la vie au service de la cause de la paix et rendre hommage à tous ceux hommes et femmes qui ont servi et continuent de servir dans les opérations de maintien de la paix de l'Organisation Nations Unies pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur courage. La commémoration de l'Organisation des Nations Unies a confirmé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 57 ou 529 le 11 décembre 2002. Elle est célébrée pour la première fois en 2003. L'Organisation israélo-arabe est une mission de maintien de la paix des Nations Unies en première. Le 29 mai est la journée nationale des aînés. Conformément à la loi numéro 13 de 1998 sur le bien-être des personnes âgées, une personne âgée est celui qui a âgé plus de 60 ans. À cette fin, le gouvernement a fixé la date du 29 mai comme la Journée nationale des aînés. La Journée nationale des personnes âgées a été officiellement proclamée par le président Suharto à Semarang le 29 mai 1996 pour honorer Rajiman Widyodiningrat qui a dirigé la première session du comité chargé de préparer l'indépendance de l'Indonésie. La Journée nationale des aînés est célébrée avec des activités impliquant les personnes âgées, comme la gymnastique ensemble, de diverses compétitions et l'aide pour les personnes âgées. En outre, on organise également des séminaires et des discussions des questions liées au bien-être des personnes âgées. Voici l'histoire d'aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir tous les auditeurs, on se retrouve encore avec moi Tiwi dans le programme de mon Indonésie dont le titre d'aujourd'hui est « Le pilier de la nationalité doit toujours rester exister ». Les membres de l'Assemblée consultative du peuple, Majelis Permusyawaratan Rakyat ou MPR, ont l'obligation de garder et de maintenir la Pancasila, la Constitution, l'État unitaire de la République d'Indonésie et de Bhinneka Tunggal Ika. Cela a été dit par le président de MPR, Zulkifli Hasan, alors qu'il dirigeait la procession de prestation de serment de la promesse, substituée entre-temps de 13 membres du MPR restant dans la période 2014 à 2019 au bâtiment du Parlement de Jakarta, le 23 mai. Comme cité de la page mpr.go.id, Zulkifli Hasan a dit que l'année 2018 et 2019 était l'année politique. Alors, le dévouement des membres est attendu pour garder l'unité de la nation indonésienne. D'un autre côté, MPR continue de promouvoir la socialisation des quatre piliers du MPR. Ce sont Pancasila, la Constitution de 1945, l'État unitaire de la République d'Indonésie et Bhinneka Tunggal Ika. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple, Usman Sabta, lundi, à Pontianak, à Kalimantan de l'Ouest, a organisé une socialisation de l'importance de comprendre les valeurs des quatre piliers de la nationalité. Cette socialisation rappelle au public les dangers de la drogue. Usman Sabta a rappelé que l'État indonésien est dérangé par des pays étrangers qui veulent s'emparer des ressources naturelles et des ressources indonésiennes. Ils interviennent par la drogue. D'un autre côté, comme cité par Tempo Poanko, Azumardi Azra, le professeur de l'Université d'État islamique de Jakarta, a proposé une formation nationale pour les professeurs d'université et les professeurs d'école en Indonésie. La proposition a été proposée pour contrer la propagation du radicalisme par les universités et les écoles en Indonésie. Azumardi Azra, à Jakarta, le 29 mai, a déclaré que le radicalisme était entré par infiltration, l'un d'entre eux est par l'université. Pour cela, pour répondre à la notion de radicalisme, il doit être fait par l'éducation nationale pour les étudiants et les professeurs. Selon Azumardi Azra, l'éducation et la formation des enseignants devraient être mises en œuvre parce que les enseignants n'ont jamais touché à la formation sur la nationalité après être officiellement devenus enseignants. Selon lui, c'est différent des étudiants qui reçoivent encore une éducation civique. Voilà mon Indonésie.
Chers auditeurs, voici donc le rappel de titre de l'actualité.
La jeunesse de l'ASEAN a célébré la commémoration de Vesak au temple de Borobudur. Le premier ministre indien arrive en Indonésie mardi soir. L'Indonésie cible à augmenter le nombre de touristes indiens. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a appelé à la paix et la tolérance à la conférence internationale sur la jeunesse bouddhiste de l'ASEAN. Le gouvernement encourage l'augmentation des exportations de fruits du dragon.
Serviteur, c'était le rappel de titre de l'actualité de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/FRENCH.
Hatimu berikan energi di dalam semangatmu, tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi, inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai
tak ada yang bisa
berhenti.
connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la région Kebumen. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Kebumen est l'une des régions à Java Central, située au sud de l'océan indonésien. Cette région a de belles plages que vous devez visiter si vous voyagez à Kebumen. L'une d'entre elles est la plage Manganti, l'une des plus belles plages en province Java Central. Elle est située dans le village Karangdungur, sous-district Ayah, en région Kebumen. Cette plage est située dans l'ouest de Kebumen. Pour aller à la plage Manganti, on a besoin d'environ 2 heures du centre-ville Kebumen avec une route assez rapide. Mais tout sera payé quand vous arrivez à Manganti. Le sable blanc recouvert d'eau bleue de la mer. Le paysage naturel est incroyable car la plage est entourée de collines verdoyantes et de hautes falaises naturelles. Voyager à cette plage, vous pouvez jouer au tando. Vous pouvez également mélanger avec la vie quotidienne des pêcheurs locaux. Vous pouvez également acheter des captures directes des pêcheurs de poissons qui plus tard peuvent tout demander à brûler. Donc, vous pouvez directement profiter de la fraîcheur de poissons de la plage Manganti. À la plage Manganti, vous pouvez profiter de la beauté naturelle de la plage. Pour avoir une plus belle vue, vous pouvez escalader la colline sur la côté est de la plage. Au sommet de la colline, il y a un phare de fabrication hollandaise de 1912 à 1915 qui peut atteindre 20 mètres et qui peut encore être gravi jusqu'au sommet. De cet endroit, vous pouvez automatiquement voir toute la zone côtière, les cours de collines de corail étirées jusqu'à l'océan bleu. Du haut de cette colline, vous pouvez également profiter du beau lever et coucher du soleil. La plage Manganti est équipée de plusieurs installations qui peuvent être utilisées comme des cabanes, des sièges. Il y a même des villes familiales qui peuvent être louées. En plus du phare, il y a des falaises Karangbata que vous pouvez visiter en voyageant sur la plage Manganti. Il est situé à l'est sud-est de la plage Manganti. À KP Karangbata, vous verrez l'immensité de l'océan Indien et une île de corail. Il y a des bidonvilles pour l'abri. De la KP Karangbata est également vu d'autres plages comme la plage Karangbata et la plage Peakron à l'est. Si la saison des pluies arrive, les falaises à l'ouest de la plage Manganti sont ornées de 4 cascades d'une hauteur de plus de 30 mètres. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèles avec nous et au revoir.
Yeah. Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre La Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement et de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Yang mana rumah Pak Joko? Je répète. Yang mana rumah Pak Joko? Ou en langue française, laquelle est la maison de Monsieur Joko?
Permisi, maaf mau tanya.
Iya.
Yang mana rumah Pak Joko?
Oh, itu di sana. Rumah yang warna biru.
Oh, terima kasih, Pak.
Sama-sama.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire reliant au thème d'aujourd'hui, à savoir Yang mana rumah Pak Joko? Ou en langue française, laquelle est la maison de Monsieur Joko? Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Permisi, saya mau tanya. Permisi, saya mau tanya. En français, excusez-moi, je vais poser une question. Yang mana rumah Pak Joko? Yang mana rumah Pak Joko? En français, laquelle est la maison de Monsieur Joko? Warna. Warna. En français, couleur. Berwarna. Berwarna. Ou en français, coloré. Itu di sana, rumah yang berwarna biru. Itu di sana, rumah yang berwarna biru. Ou en français, c'est là-bas, la maison bleue. Dans le dialogue, le chauffeur demande Yang mana rumah Pak Joko? Yang mana rumah Pak Joko? En français, laquelle est la maison de Monsieur Joko? La personne à qui est demandé donne la direction en mentionnant la couleur de la maison de Monsieur Joko. Itu di sana, rumah yang berwarna biru. Itu di sana, rumah yang berwarna biru. En français, c'est là-bas, la maison bleue. Si vous êtes demandé, vous pouvez fournir des indices en mentionnant les caractéristiques de la maison ou des objets qui sont autour de la maison. Par exemple, itu di sana, yang dekat pohon mangga. Itu di sana, yang dekat pohon mangga. En français, c'est là-bas, près de manguier. L'autre exemple, yang mana rumah Pak Joko? Yang mana rumah Pak Joko? En français, laquelle est la maison de Monsieur Joko? Ensuite, répondu, yang besar, yang dua lantai. Yang besar, yang dua lantai. Ou en français, c'est la grande, ayant deux étages. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Permisi, maaf mau tanya.
Iya.
Yang mana rumah Pak Joko?
Oh, itu di sana, rumah yang warna biru.
Oh, terima kasih, Pak.
Sama-sama.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. En pratique, envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email à voinews.id. Il y aura un prix attrayant pour les expéditeurs sélectionnés. L'exercice consiste à décrire un lieu touristique dans votre pays en mentionnant le nom du pays, le nom du site touristique, l'emplacement et la météo de cet endroit. Si vous voulez fournir plus d'informations, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Par exemple, Selamat pagi, negara saya Indonesia. Memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas, dan gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. Chers amis, rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Et merci d'être fidèle avec nous et au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Salut chers amis de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. On se retrouve encore avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. Dans cette édition, nous allons vous présenter des chansons des Moluques. Restez avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie que vous allez écouter par l'onde courte à 900-200 kHz et par la diffusion en direct à www.voinews.id ou par l'application de RRI Play et RRI World Service sur votre smartphone. Pour commencer cette édition, écoutons une chanson sans titre Rasa Sayange, chanté par Fika.
Jalan ke Surabaya, jangan lupa beli pita. Jangan...
Voilà la chanson de Fika dont le titre est Rasa Sayange. Beaucoup de gens croient que cette chanson est la création de Paul Pea. C'est une chanson pour des enfants chantés de génération en génération par les Moluques. Cette chanson est une expression d'affection pour l'environnement et la socialisation parmi les gens. Si on l'écoute, elle est comme un poème ou pantoune, qui est une tradition orale des Moluques. Elle a été chantée par de nombreux chanteurs, l'un d'entre eux est Vika. Bon, chers amis, la suite, nous allons écouter une autre chanson des Moluques intitulée Hujan Sore Sore par Johnny Al Jogja.
Waktu hujan sore-sore, kilat sambar pohon kanari. Ejo jaru dengongare, mari dansa dan menari. Pukul tipa toto buang, pata balimbing di kareta. Sion nona hati tuang, jangan geser tinggal beta. Menari sambil goyang badan ni, menari lombok pegang lensong manisnya. Rasa rame jangan pulang dolo. Toto buang patah balimbing di kereta. Sion nona hati tuang, jangan geser tinggal beta. Jangan pulang dolo menari sambil goyang badan ni, menari lombok pegang lensong manisnya. Rasa rame jangan pulang. Jangan pulang doroe.
Chers amis, vous venez d'écouter la chanson intitulée Hujan Sore Sore, chantée par Johnny Al Jogja. Cette chanson décrit le plaisir de chanter et de danser sous la pluie à l'après-midi. Elle est populaire parmi les Moluques et aussi parmi les autres communautés en Indonésie. Bon, chers amis, pour terminer cette édition, écoutons les deux chansons de Moluques dont les titres sont Huhate par Fika et Kota Ambon par Johnny Al Jogja. Bonne écoute et au revoir!
Orang muda huhate, jangan sampai dapat kulit durian. Pasang mata telinga kalau mencari teman, jangan
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/FRENCH ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Kota Ambon, ibu negeri, tanah Maluku, di pinggir laut, tempat kita bersatu. Dari jauh terlihat gunung Salahutu. Beta ingat dahulu beta di situ. Bulan terang menerangi tepian pantai. Suara tifa beramai-ramai. Sio Ambon dengan teluk yang indah bermain. Apa tempo beta lihat engkau lagi. Dari jauh terlihat gunung Salahutu. Beta ingat dahulu beta di situ. Bulan terang menerangi tepian pantai. Bunyi gitar, suara tifa beramai-ramai. Dengan teluk yang indah bermain. Apa tempo beta lihat engkau lagi. Apa tempo beta lihat engkau lagi.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/FRENCH.
Tanah orang baru.
Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les musiques indonésiennes. Merci à tous et à bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.